Freddy Ethan, bonsoir. Freddy Ethan, vous êtes ancien diplomate israélien. Freddy Ethan, c'est une excellente nouvelle que nous avons eue aujourd'hui avec le retour du corps de Ran Gvili. Il n'y a plus aucun otage israélien dans la bande de Gaza, aussi bien vivant que décédé, et cela depuis 2014. Hein.
Exactement, oui. Vous savez, nous avons vécu cet après-midi des moments émotionnels intenses. Il y a eu évidemment des cris de joie, mais aussi des larmes de tristesse, de douleur, de deuil. Il y a eu même une cérémonie à Gaza avec la présence donc du chef d'état-major Eyal Zamir qui s'est achevé après les prières, par la Tikva. Vous savez, la famille de Rani Gvili avait espéré et prié durant toute sa captivité. Elle est partie même en Floride avec Netanyahou pour rencontrer le président Trump. Ils ont cru, ils ont espéré qu'il était encore vivant. Mais dans les recherches, ont été effectués après un renseignement précis des services, surtout du Shin Bet, par des spécialistes de Tzahal. Vous savez, il y a aussi des aumôniers qui étaient là. Et il y a eu, je dirais, dans la recherche, on a déterré dans un cimetière de Gaza, un cimetière musulman, il faut le dire, 250 cadavres. Pour y arriver enfin à la dépouille donc de Rani Gvili. C'était vraiment une tâche presque impossible qui a commencé déjà il y a plusieurs mois et qui a échoué. On a cherché dans les hôpitaux, on a cherché un peu partout. Mais cette mission, et c'est ça qui est important, cette mission était sacrée. Je dirais aussi que le président Trump, qui a tout à l'heure réagi à chaud sur X, sur Twitter, vient de réagir par téléphone au micro du correspondant de la deuxième chaîne israélienne. Et il a évidemment s'est félicité de la restitution donc de la dépouille. Il a dit que on ouvre une nouvelle page, mais je dirais que c'est aussi regrettable que la déclaration donc de Trump. Il prend, je dirais, tout le crédit.
Oui, mais il s'attribue en fait, oui. Lui et son équipe, oui. Le fait que le corps de Ran Gvili ait été retrouvé. Finalement, l'armée israélienne et les services de renseignement israéliens ont très peu contribué à ce retour, mais bon.
Oui. Mais il a dit ça aussi en Iran. Il a fait la même chose pendant les 12 jours. Il a dit grâce aux Américains, oui, bon.
Alors, Gilad Erdan, qui est l'ancien ambassadeur israélien à l'ONU, a dit deux choses concernant la bande de Gaza, et il a parlé aussi de l'Iran, on parlera de l'Iran dans un instant, mais concernant la bande de Gaza, il a dit qu'il y avait des désaccords, je dirais, importants entre Israël et les États-Unis, parce que pour les Américains, le retour du corps de Ran Gvili fait en sorte que la deuxième phase du plan Trump va se mettre en place avec la reconstruction de la bande de Gaza. Et cet après-midi, Benjamin Netanyahou, à la Knesset, dit non. Maintenant, c'est la démilitarisation complète du Hamas qui doit avoir lieu avant de parler de reconstruction. Il semblerait que le président américain Benjamin Netanyahou vont avoir quelques problèmes de communication à ce niveau-là.
Il y a des malentendus, ça va de soi. Il y a des divergences avec les États-Unis, non pas seulement sur ce point-là, mais aussi pour la participation de la Turquie et du Qatar. Il faut dire que le Qatar, par exemple, veut sauvegarder la présence du Hamas dans la bande de Gaza. Et il faut dire aussi que lors des entretiens à Jérusalem, il y a 2 jours, avec les conseillers de Trump, Witkoff et Kouchner, ils ont insisté et exercent des pressions sur Netanyahou. Mais je crois que nous pouvons trouver des arrangements. Mais cela aussi dépend de Netanyahou. Il devra refuser aussi de revenir à la situation d'avant le 7 octobre, c'est-à-dire les fameuses valises diplomatiques bourrées de pognon qatari qui a servi au Hamas d'acheter des armes et construire des tunnels d'attaque contre nous. Donc, il faut dire aussi qu'il y a une situation très complexe et très compliquée à résoudre. Mais nous sommes sur la bonne voie après la libération, donc après la restitution donc du corps et le rapatriement donc de Rani Gvili. Et donc il y a là c'est la voie donc de la deuxième phase qui commence. Et je crois que nous devons aussi faire le maximum pour procéder à l'ouverture aussi du passage de Rafah. Parce que c'est dans le cadre donc des 20 points donc du plan Trump. Et aussi, il faut dire que il y a on accepte Israël. Il y a eu le cabinet hier qui s'est réuni. Et Israël accepte donc l'ouverture du passage, mais pas des marchandises, uniquement par le va-et-vient donc si je peux dire, des touristes, l'aller-retour donc de Rafah. Et il faut dire aussi et Israël a exigé, et cela va être appliqué à la lettre, des restrictions sur la sécurité, ça va de soi. Donc il faudrait aussi penser comment nous allons nous retirer progressivement de la bande de Gaza et comment nous allons sauvegarder une bande de sécurité. Donc je crois que c'est vrai et je crois que c'est capital. Et cela nous inquiète le plus, ce que vient de dire à la Knesset donc Netanyahou, c'est effectivement le désarmement du Hamas et la remise de toutes les armes. Parce que, évidemment, on ne peut pas, c'est un point essentiel. Et je crois que le président Trump devra être aussi intransigeant et garantir à Israël. Et je dirais, parce qu'on sait qu'il est imprévisible, je dirais, j'insiste, cette garantie doit être écrite par une missive donc du président des États-Unis, parce que si le refus du Hamas, eh bien Trump dira que s'il y a un refus du Hamas de se désarmer, eh bien Tsahal sera obligé de poursuivre le combat jusqu'au jour où il sera totalement désarmé. Ça, c'est un consensus en Israël.
Alors, j'aimerais qu'on dise un mot avec vous sur l'Iran. On a appris aujourd'hui que le groupe aéronaval de l'USS Abraham Lincoln, qui comprend un porte-avions, des destroyers et beaucoup d'autres navires, est entré dans l'océan Indien. Il se rapproche du CENTCOM, le CENTCOM qui est le centre de commandement américain et qui est basé au Qatar. Alors, dans ce contexte, on entend aussi plusieurs choses. On a vu et on a entendu Donald Trump dire aux manifestants iraniens qu'ils devaient poursuivre les manifestations, que l'aide était en route, puis finalement, il ne s'est rien passé. Et maintenant, il y a ce déploiement. Toute la question est de savoir, est-ce que les Américains ont réellement l'intention de bombarder l'Iran?
Écoutez, c'est une question que personne ne sait. Je crois que même Donald Trump ne le sait pas. Et je crois qu'il y a un problème de crédibilité vis-à-vis des États-Unis. Mais je suppose que dans le contexte que vous venez de décrire avec les renforts donc, du porte-avions Abraham Lincoln et toutes les vedettes et les avions qui sont venus, ils ont atterri évidemment dans les camps militaires américains un peu partout, éparpillés, puisqu'il y a en Jordanie, au Qatar, et je dirais même en Israël. Donc, il y a un quartier général américain en Israël, à Kiryat Gat. Donc, il y a, si vous voulez, une coordination avec Israël. Et les Iraniens craignent une opération conjointe Israël-Amérique. Et ça, ils le disent clairement. Mais donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui dans les rues de Téhéran des manifestations. Donc, une attaque, une opération militaire devra, qui a pour but de faire tomber le régime, n'est pas, d'abord, ce n'est pas facile de faire tomber un régime pareil. Et donc, il faudrait avoir des cibles qui pourront comme essayer de le faire, de renverser ce régime ou d'attaquer même le chef donc, spirituel, le guide spirituel Khamenei qui se trouve probablement dans un des bunkers de Téhéran ou ailleurs. Et alors, que faire? Est-ce que les gardiens de la révolution que les pays européens essayent aujourd'hui de mettre sur une liste noire et de dire qu'ils sont une organisation terroriste, eh ben, ne vont pas se venger? Que vont-ils faire? Est-ce qu'ils ne vont pas se venger contre la population? Parce qu'on attaque aujourd'hui des manifestants, même dans les hôpitaux. C'est ça qui est grave. Et il y a des chiffres effroyables. On parle de 30 000 tués, massacrés. Donc, c'est une opération à la fois militaire, une opération aussi psychologique, un bras de fer avec les Iraniens. Mais le but est de savoir si ça va faire tomber ce régime. S'il s'agit de sanctionner l'Iran par une opération ponctuelle ici et là, et que l'Iran, après, va soulever même un drapeau blanc et disant « ça y est, on abandonne », ça, on ne le croit pas. Mais si l'Iran dira « demain, nous voulons d'abord négocier », eh ben, je crois que Trump dira « oui, on va négocier ». Et c'est là le problème, ce grand dilemme, de savoir si les Iraniens voudront négocier et pour gagner du temps, ou sinon Trump décidera de lancer cette opération. Mais il faut dire qu'en Israël, on est en état d'alerte. Et donc, c'est ça qui est important, parce que nous ne voulons pas, évidemment, être dans une situation où on sera surpris d'une attaque de l'Iran, parce que l'Iran est capable, a toujours cet arsenal de missiles et de drones, est capable de lancer donc ces missiles sur le territoire israélien.
Freddy Etan, merci d'avoir été en direct avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate israélien. Merci et bonsoir.
Bonsoir.